Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Nous entrons ce soir dans la nuit de Noël, où Dieu se lie à notre humanité en devenant homme parmi les hommes. Comment l'incarnation vient-elle restaurer la création ? Psaume 95, lu lors de la messe de la nuit de Noël, affirme « Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête, les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. » La venue du Sauveur n'est donc pas seulement occasion de joie pour les hommes, mais pour la création tout entière. Explication avec le frère Philippe-Marie Marjolidon, dominicain et professeur de théologie à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour Père.
Bonjour.
Pour débuter cette émission, peut-être nous faut-il revenir quand même sur le pourquoi de l'incarnation. En quoi l'incarnation était-elle nécessaire à la restauration du genre humain ?
Oui, c'est une question très, très classique, que la théologie a abordée d'ailleurs en différents sens. Disons, pour faire court, qu'il faut considérer, quand on parle de l'incarnation, deux aspects. La première, que vous venez d'évoquer, les raisons de l'incarnation. Et dans les raisons, il y a ce qu'on appelle le motif, je vais expliquer, et puis la fin pour laquelle Dieu s'est incarné. Alors si on prend du côté de la fin, on va commencer par la fin, le but de la création, c'est de faire parvenir le dessein éternel de Dieu, comme disent les pères, le dessein bienveillant et éternel du Père, de le faire parvenir à son achèvement, malgré toute... les échecs, le mal dont l'homme est principalement la cause. Donc l'incarnation a été voulue par Dieu en vue de cette fin, de faire parvenir à bon port le dessein éternel et bienveillant de Dieu. Alors maintenant, si on considère...
Et peut-être ce dessein éternel et bienveillant de Dieu, en fait, c'est d'être dans l'amitié avec Dieu.
Dans l'amitié complète avec Dieu, et par là, de faire parvenir la création tout entière à sa fin. Donc vous voyez, ce que nous fêtons à Noël, c'est ça aussi. C'est que Dieu réalise par l'incarnation quelque chose qui va nous faire parvenir à bonne fin. Cette fin qui concerne l'universalité des hommes et même l'universalité de la création. On peut nommer ça d'un seul mot, l'Église, parce que l'Église, c'est ça. Il y a un adage patristique qui dit « L'Église est la fin de toute chose. Finis omnium ecclesia. » Donc l'Église, en sa perfection, c'est la fin de toute chose et c'est la fin pour laquelle le Verbe, le Fils, s'est incarné. Donc ça ne concerne pas simplement les hommes, en effet. Ça concerne tout le cosmos, tout l'univers, toute la création.
D'accord. Donc ça, c'est la fin.
Ça, c'est la fin.
D'accord. Et alors maintenant, les motifs, le motif.
Les raisons, oui. Et dans les raisons, le motif. Les raisons, c'est que l'homme devait... Alors là, ça concerne beaucoup plus l'homme. Hein, c'est plus seulement la création. C'est l'homme ici, parce que Dieu s'est fait homme. C'est donc les hommes qui avaient besoin d'une aide divine. Pourquoi faire ? Bah, d'abord pour s'orienter positivement vers le bien. Quel chemin prendre pour atteindre le bien moral, spirituel, religieux ? Et puis, comment surmonter le mal dont l'homme, depuis Adam, est la cause ? Donc, il y a positivement vers le bien. Comment s'orienter, se guider et parvenir au bien, et ensuite, enfin le faire, et ensuite comment s'affranchir du mal. Alors c'est là qu'intervient le motif. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, puisque nous le fêtons cette année, hein, la dernière année du centenaire Saint Thomas, 2025, il est né en 1225, Saint Thomas dit que le motif principal et déterminant de l'incarnation, Dieu fait homme, c'est le péché. Il faut, pour parvenir à la fin dont je parlais tout à l'heure, il faut surmonter le péché de l'homme. Alors il y a deux types de péchés. Il y a le premier de tous, qui est la cause de tout le reste d'ailleurs, qu'on appelle le péché originel. Donc saint Thomas dira que le motif principal se prend du péché originel et aussi de tous les autres péchés dont l'homme est la cause depuis Adam. Qu'on appelle les péchés actuels ou personnels, péché mortel, péché véniel, enfin toutes les formes de péché, le péché du monde, on dirait aujourd'hui les structures de péché qui sont dans le monde, le péché social, enfin il y a toutes sortes de manières de désigner le péché. Eh bien, le Christ s'est fait homme pour que l'homme s'affranchisse de ce péché-là ou de ces péchés-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle le motif principal ou premier, ou principal, et déterminant de l'incarnation.
Et donc, ça veut dire que si on se base seulement sur ce motif principal, si l'homme n'avait pas péché, il n'y aurait pas eu d'incarnation.
Voilà. Alors, Saint Thomas ne dit pas qu'il n'y aurait pas eu purement et simplement, parce que, comme il le dit ailleurs, nous ne connaissons pas toutes les raisons. Mais celles qui nous sont révélées par Dieu, dans l'Écriture et la tradition, c'est d'abord et avant tout le péché. Donc, c'est la raison pour laquelle, on voit dès l'Annonciation, que le Fils du Très-Haut, il s'est fait homme pour sauver les hommes du péché, pour notre salut, comme nous disons dans le credo.
Oui, c'est vrai. Et alors, il y a un motif secondaire.
Alors, il y a des motifs secondaires ou des raisons secondaires qui sont celles dont j'ai parlé tout à l'heure pour que l'homme puisse se diriger dans le bien, surtout, c'est celle-là. Et ensuite, pour qu'il apprenne à vivre selon les vertus, qu'il apprenne l'humilité, puisque le Christ s'est fait humble en se faisant homme, etc. etc.
Est-ce qu'il aurait il serait convenu que Dieu s'incarne dès le commencement du monde?
C'est une possibilité, mais saint Thomas dit que c'est très improbable. On ne peut pas imposer de limite à Dieu. Mais d'ailleurs, j'ajoute qu'il faut éviter la théologie fiction.
Oui.
Nous partons de ce que Dieu a fait et nous raisonnons a posteriori, après coup. Alors, est-ce que c'était impossible de puissance absolue, comme disent les théologiens? Il l'aurait pu. Mais ce n'était pas convenable, étant donné la raison, le motif.
Voilà, c'est ça.
Puisque c'est à cause du péché, c'est donc que très probablement, et même quasiment certainement, Dieu ne se serait pas fait homme dès le commencement du monde. Et puis l'histoire, il y a aussi, il faut que l'histoire se produise. Et Dieu sauve l'homme dans l'histoire, non pas de son histoire, parce que l'histoire c'est quelque chose de bon, mais il intervient dans cette histoire. Donc ça ne peut pas être au commencement.
Et ça ne peut pas être non plus à la fin du monde.
Alors, la fin du monde a déjà eu lieu, en un sens, par l'incarnation, on le dit dans la liturgie de Noël, qui est un nouveau commencement, on y reviendra. C'est aussi à la fois un nouveau commencement et c'est déjà la fin. La fin de ce monde, dans sa vétusté, est déjà consommée dans l'incarnation et que c'est le commencement d'un monde nouveau dans le Christ. Donc nous sommes déjà dans les derniers temps. Nous sommes à la fin du monde. Nous y sommes déjà. Seulement, comme dirait l'autre, ça dure. C'est une fin qui dure jusqu'à ce qu'intervienne la fin des temps.
Avec le retour du Christ.
Avec la parousie du Christ, comme on dit, l'ultime manifestation du Christ.
Frère Philippe-Marie Marjolidon, qu'est-ce que l'incarnation concrètement?
Alors l'incarnation, on dit, c'est saint Jean, le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. On le dit trois fois par jour dans l'Angélus, c'est tiré du prologue de saint Jean. Ça veut dire que c'est Dieu qui prend l'initiative de devenir l'un de nous, tout en restant, tout en demeurant ce qu'il est. Il n'y a pas d'abolition de Dieu, se dissout pas dans l'humanité. Au contraire, il attire à lui l'homme, mais il l'attire de telle manière à ce que lui-même, Dieu, devient cet homme. C'est ça l'incarnation. Donc c'est descendant, si vous voulez. C'est Dieu qui prend l'initiative de se faire homme, de devenir l'un de nous. Et ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu. C'est pas nous devenons Dieu par participation, par sa grâce et par son amour. Mais lui, le Verbe, le Fils éternel du Père, il s'est fait homme dans le temps et donc il a pris, on dit qu'il a assumé c'est le vocabulaire utilisé par la tradition théologique chrétienne, il a assumé une humanité comme la nôtre.
Oui. Et dans cette le fait que cette humanité soit assumée, il y a quand même une conception particulière du Christ.
Alors, tout à l'heure, je parlais de commencement. L'incarnation, c'est en effet un nouveau commencement pour l'humanité et pour le monde. À commencement nouveau, enfin, ou à monde nouveau, commencement nouveau, d'où la très haute convenance, disent les pères, avant saint Thomas, bien ça remonte, de la conception virginale du Christ. Pour que, puisqu'il est le principe, je parle du Christ, d'une humanité nouvelle, il est ce qu'on appelle le nouvel Adam, donc un recommencement, un nouveau commencement pour une humanité nouvelle et pour un monde nouveau, correspond un mode, une manière de venir au monde et d'être homme nouvel. Homme comme nous, bien sûr, il est venu pour l'humanité pécheresse, pour l'humanité marquée par le péché, mais dès le commencement de sa vie humaine, nous voyons qu'intervient, Dieu intervient, il a été conçu du Saint-Esprit, il est né de la Vierge Marie, il est non seulement né, mais il est d'abord conçu virginalement, et puis né, ensuite virginalement, d'où tout ce que l'on dit à propos de la virginité perpétuelle de Marie.
Avec le dogme de l'Immaculée
Conception. Vous voyez, c'est une raison christologique hein, ou théologique. C'est pas parce que on se méfierait des couples, de la vie, de l'union sexuelle des couples. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est que Dieu fait toute chose nouvelle et il commence par donner à l'humanité un nouveau mode d'existence hein, et ici un nouveau mode de conception.
Alors, si on parle du reste de la création, vous avez, frère Philippe-Marie, parlé de l'homme qui est sauvé avec cette première étape qui est l'incarnation, étape de ce mot. Qu'en est-il des autres créatures?
Alors, en effet, il y a aussi les anges au-dessus de nous, et puis il y a les autres créatures qu'on dit en dessous de nous.
Parce qu'il y a une hiérarchie quand même
dans
la création.
Oui, il y a une hiérarchie dans les êtres. Il y a en dessous de Dieu, bien sûr, l'incréé, il y a les créatures, et les premières créatures sont les anges. Puis ensuite, il y a l'homme, et puis il y a les créatures qui sont matérielles, les animaux, les végétaux. Et l'homme, dit saint Thomas, est un horizon entre deux mondes. Il est à la frontière des deux, la frontière des
ni ange,
des esprits, parce qu'il
ni animal.
Et puis à la frontière, et puis de ce qui est en dessous. Tout. Donc saint Aristote disait de l'homme qu'il était un animal rationnel. Il participe du monde animal. Mais il est rationnel, donc il participe de l'esprit. Et en cela, il partage quelque chose avec l'ange.
D'accord.
Alors, le Christ ne s'est pas incarné pour les anges, puisqu'il est venu principalement pour
l'humanité.
Pour l'humanité pécheresse. Mais cette incarnation, elle a un effet, des conséquences sur tous les autres êtres, même les anges. Alors d'abord les autres êtres, c'est tous les êtres matériels. La création est appelée à un renouvellement, j'allais dire de fond en comble, et qui se produira justement après la parousie du Christ, lorsque à la résurrection, le Christ lui-même, étant ressuscité, transformera le monde présent, le purifiera, il va y avoir un émondage, mais aussi une transformation qui atteindra indirectement les anges, parce que les anges font partie de ce tout dont nous parlons, et de sorte que tout sera achevé et que tout sera perfectionné, et tous les êtres, des plus bas, des plus humbles, jusqu'au plus haut, les archanges, enfin, ou les hiérarchies angéliques, comme on dit parfois. Donc la création, vous voyez, l'incarnation a, via tout de même, on y reviendra, la passion et la résurrection, a des conséquences pour tout l'ordre du monde.
Oui, mais pourquoi les anges avaient besoin d'être sauvés? Parce
qu'ils n'ont pas besoin d'être sauvés, mais... Non, j'ai dit que
parce qu'il bénéficie quand même de cette incarnation.
Si on entend par salut, le mot salut peut avoir deux significations. La première, la plus immédiate, c'est égale rédemption. Le salut, c'est la rédemption. Bon, ça c'est vrai. C'est une première manière de dire. Si on entend par salut accomplissement, achèvement, alors à ce moment-là, toutes les créatures ont besoin d'un achèvement, même les anges. Donc en ce sens-là, on peut dire qu'ils sont aussi sauvés, mais indirectement, par la puissance du Christ incarné et ressuscitant d'entre les morts. On peut le dire. Mais c'est tout de même d'abord nous qui sommes les principaux au centre de l'œuvre créatrice de Dieu. C'est nous qui avons besoin de cette restauration, de cette que constitue l'incarnation.
Et dans les récits de la Genèse, on lit que le péché originel a une des conséquences du péché originel, c'est de mettre un rapport de force, une inimitié entre l'homme et les autres créatures, les animaux. On se souvient du serpent qui
mordra le talon. Oui, en effet, que le rapport de l'homme aux créatures est un rapport non harmonieux depuis le péché. Donc cela aussi, l'incarnation est le premier acte par lequel Dieu remédie à cette disharmonie dans le Christ pour que cet homme puisse, par la grâce de l'incarnation, par la vie avec le Christ, par l'amitié avec Dieu, puisse restaurer lui-même. Ce rapport avec les créatures qui sont dites inférieures à lui. Alors ce que saint Thomas ne dit pas, mais qu'on peut-être envisager, en tout cas certains pères l'ont fait avant lui, les pères, c'est-à-dire les pères de l'Église, ou des théologiens contemporains, c'est que le péché de l'ange, parce qu'avant le péché d'Adam, il y a eu le péché de l'ange, Lucifer. Que le péché de l'ange et le péché de l'homme a introduit dans le cosmos un certain mauvais état, un désordre. Et que, à cela aussi, l'incarnation et la rédemption et la résurrection vont remédier.
Et est-ce que la création va revenir au même état de départ avec justement l'incarnation, la résurrection, la rédemption?
Alors, c'est vrai que l'incarnation, en latin, on dit réparation, reparatio, ça veut dire restauration. Mais saint Thomas, je vous l'ai dit, à cause de la fin, dont nous avons parlé tout à l'heure, ne veut pas s'en tenir à une simple restauration à l'état d'avant. C'est-à-dire, on va revenir au paradis l'Éden,
c'est ça.
Pour reprendre l'image du paradis édénique. Non, il s'agit de faire parvenir la création à son achèvement. Donc c'est plus qu'une simple guérison, un simple remède au mal, c'est aussi un exaucement. C'est une exaucement, ça veut dire le faire parvenir plus haut.
Plus haut, oui, oui. Hein,
le faire parvenir à la fin pour laquelle l'homme a été créé, à savoir l'amitié dans la gloire, à l'amitié divine, dont nous disions tout à l'heure qu'elle ne concernait pas seulement l'homme et les anges, mais toute la création d'une manière ou d'une autre.
D'accord. Et comment comprendre ce passage que nous avons lu pendant l'Avent, cette prophétie d'Isaïe au chapitre 11 ? Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, etc. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main.
Alors c'est tout à fait ce que l'Écriture dit de la fin. C'est-à-dire que nous allons vers un nouvel état d'existence à la fin des temps, dont Dieu sera l'auteur, c'est lui le créateur et c'est lui le recréateur du monde. Mais ce qui est intéressant dans l'Évangile, c'est que cet état final, il est anticipé déjà par l'incarnation. Dans l'épisode, par exemple, de la tentation, à la fin, on nous dit que les animaux le servaient. Donc, il y a l'idée que le Christ pacifie tout. Vous parliez des relations de l'homme avec les créatures animaux. Et même avec les animaux. Mais au-delà même des animaux, l'incarnation est la cause ou la première cause par laquelle tout sera réconcilié dans nos rapports les uns avec les autres, entre les hommes, mais aussi avec les créatures. Donc c'est quelque chose que nous attendons, mais c'est quelque chose qui a déjà commencé dans le Christ. Et ça, l'incarnation est justement ce commencement de réconciliation, même avec les créatures les plus humbles.
Frère Philippe Marais, je vous propose de nous arrêter quelques instants. Nous écoutons Douce Nuit, interprétée par les petits chanteurs à la Croix de Bois.
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
À Noël, Dieu s'est fait homme pour sauver la création tout entière, le genre humain et les créatures. Nous poursuivons notre réflexion sur l'incarnation avec le frère Philippe-Marie Marjolidon, dominicain. Frère Philippe-Marie, dans ce tout petit enfant Dieu, né dans la pauvreté de la crèche, nous peinons à mesurer l'immensité de Dieu. Qu'est-ce que nous révèle l'incarnation de la toute-puissance divine?
Alors, elle nous révèle à la fois, comme vous venez de le dire, la toute-puissance de Dieu, toute-puissance qu'on peut qualifier de miséricordieuse, puisque Dieu vient à notre secours, au secours de notre faiblesse, et surtout au secours de notre péché. Et il nous révèle que Dieu est fort, parce qu'il est tout-puissant, dans la faiblesse, dans l'humilité de la chair. Donc nous avons cette conjonction de deux perfections divines, la toute-puissance et puis...
la pauvreté, l'abaissement.
Ce n'est pas une perfection, mais disons la miséricorde. Alors, qui va se traduire? C'est cela que ça se traduit comment, cette toute-puissance qui vient au secours de notre faiblesse? Elle se traduit en un terme que Saint Paul utilise, s'appelle la kénose, l'abaissement, le dépouillement. C'est dans l'Épître aux Philippiens. Non pas que Dieu ait renoncé à être Dieu, ou qu'il se soit dépouillé de sa divinité ou de sa puissance, mais il a pris notre chair, il s'est fait humble. Donc Dieu qui n'est pas humble par nature, l'humilité c'est une vertu humaine, c'est pas une vertu divine, si je puis dire. Néanmoins, il s'est fait homme, tout en demeurant ce qu'il est, comme n'arrêtent pas de dire les pères, Saint Grégoire, Saint Cyril, il demeure tout entier Dieu, mais il devient ce qu'il n'était pas, homme, et homme ça veut dire qu'il prend l'humilité de la chair, qu'il s'est dépouillé, au moins en apparence, de sa toute-puissance, mais encore une fois, il ne l'a pas perdue, il la conserve, et que c'est cette toute-puissance qui se déploie dans la faiblesse. Là, je paraphrase Saint Paul qui parle de lui, mais on peut d'abord le dire du Christ, et d'abord de Dieu dans le Christ. Donc c'est ça que nous manifeste l'incarnation. Alors on ajoute un autre qualificatif aujourd'hui à faiblesse. Faiblesse de la chair, on dit pauvreté humaine, si on veut. Mais Dieu n'est pas pauvre, il est riche. Mais de riche qu'il était et qu'il est, demeure, il se fait pauvre. Ça c'est dans l'Épître aux Corinthiens, la deuxième. Donc c'est la même chose que l'Épître de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. La kénose, ça veut dire ça. Il s'est dépouillé, ça veut dire de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, il a épousé notre pauvreté, non pas qu'il soit devenu pécheur, Christ est innocent de tout mal, mais il a épousé la condition de la chair et d'une chair pécheresse. Il a pris sur lui la peine du péché, la souffrance et la mort pour nous en sauver. Et donc c'est ça aussi ce qu'on peut appeler l'humilité de Dieu, on trouve ça quelquefois chez saint Thomas, peu, mais beaucoup chez saint Augustin. L'humilité de Dieu, ça a consisté à venir là où Dieu n'est pas tellement, c'est-à-dire là où il y a du mal. Le mal, c'est le contraire de Dieu. Il vient là pour nous sauver de ce mal. Non seulement pour l'assumer, mais en vue de nous en sauver.
Oui, c'est ça. Oui. Et donc là, on voit bien la nature divine et la nature humaine dans le Christ.
C'est ça, c'est tout à fait. Et pour opérer ce salut, cette rédemption, pour nous sauver du mal et du péché, il faut un être qui soit Dieu et homme tout à la fois. Une personne divine, on dit en théologie, une personne divine qui prend une nature humaine. Non pas une personne humaine, mais une personne divine qui assume une nature humaine. Il faut qu'il y ait les deux. S'il n'y a pas les deux, ce qui n'a pas été assumé par Dieu n'est pas sauvé. C'est Saint Irénée, Saint Grégoire de Nazianze, un latin et un grec. Si Dieu ne prend pas notre humanité, notre nature humaine, l'homme n'est pas sauvé.
Oui.
Donc il faut qu'il soit les deux. Et pour que la nature humaine soit sauvée, il faut que cet homme soit Dieu. Il faut qu'il soit de nature divine.
Oui.
Donc il y a la conjonction, on appelle ça l'union des deux natures.
Des deux natures.
Dans le Christ, il y a uni l'est de nature.
Qu'est-ce que l'incarnation aussi nous révèle de la justice de Dieu ?
Alors, merci de votre question, parce qu'on parle beaucoup, beaucoup de la miséricorde, et on a raison, parce que c'est un attribut fondamental de Dieu, c'est même perfection, et même suréminente, pourrions-nous dire, à propos de Dieu. Mais il y a aussi la justice, parce que la miséricorde n'abolit pas la justice. C'est une œuvre de miséricorde que de s'incarner, mais c'est aussi une œuvre de justice, en ce sens que Dieu, en se faisant homme, fait de nous des justes. Nous étions injustes à cause du péché. Et dans le Christ et par le Christ, nous devenons des justes, ce que le baptême opère dans chaque enfant baptisé. Il devient un juste, non pas un injuste, mais un juste. La justice de la grâce, ce qu'on appelle la justification, il fait de nous un juste. Donc c'est la justice de Dieu là, qui opère en nous, dans le Christ. Et puis, il opère, dans l'incarnation, c'est une opération divine selon laquelle l'homme lui-même, dans le Christ, fait quelque chose, il fait quelque chose dans le Christ, puisqu'il s'est fait l'un de nous, le Christ, pour surmonter le mal, par l'amour, par l'amour, il dépasse et il surmonte le mal. Donc, c'est quelque chose qui relève de la justice. Il était juste, il était convenant, juste que l'homme, dans le Christ, contribue à ce dont il est la cause, quand même, en Adam, et puis nous, à sa suite, après Adam, le péché. Donc, le Christ, il est à la fois la manifestation de la miséricorde divine, la manifestation de la justice divine, mais aussi la manifestation, de la justice humaine, de ce que nous devons faire pour réparer le mal que nous avons pu commettre. Et ça commence dans l'incarnation.
Et le Christ est donc notre maître, parce qu'il nous montre il montre à l'homme comment l'homme doit coopérer.
Voilà, alors là aussi, c'est bien sûr le Christ est la cause de notre salut, j'allais dire la cause exemplaire. Il nous montre le chemin et nous devons suivre ses traces. Je ne fais que répéter l'Écriture. Suivre ses traces, c'est ce que le Christ a fait, à nous aussi de le faire, à sa suite. À sa suite, et par lui d'ailleurs, on ne peut pas le faire sans lui. Et donc il nous donne de pouvoir à notre tour contribuer à nous élever vers le bien et à nous affranchir du mal. Et donc, en faisant des œuvres bonnes, en coopérant au salut à notre propre salut, mais aussi au salut du prochain. Donc, le Christ ne prend notre place, bien sûr. Oui, c'est vrai, il fait ce que nous ne pouvions pas faire en s'incarnant, mais c'est pas pour nous dire, maintenant, vous n'avez plus rien à faire.
C'est ça, oui.
Nous sommes, après lui, nous sommes les disciples du Christ, et donc, nous par sa grâce, avec son aide, la grâce de Dieu, qui est la grâce du Christ, nous suivons ses traces, et nous aussi, nous nous orientons vers la fin, et nous le pouvons, parce que nous pouvons coopérer avec lui au salut de tous les hommes.
Qu'est-ce que nous révèle aussi l'incarnation de la sagesse de Dieu ?
Alors c'est aussi un autre aspect, comme vous l'avez dit, il y a miséricorde, justice, il y a puissance, mais il y a aussi sagesse. Alors le dessein de sagesse, les pères parlent d'un dessein bienveillant qui est un dessein de sagesse. C'est-à-dire, la sagesse, c'est un dessein de sagesse parce que Dieu veut accomplir quelque chose de proprement divin et qu'il nous y conduit par le Christ. Il prend des moyens pour nous y faire parvenir tout à fait inédit, inattendu, à savoir l'incarnation. Ça, c'est quand même pas prévu dans le programme au départ, en tout cas chez les hommes. Il accomplit une œuvre éminente, suréminente, qui est au-delà de toute raison, qui est une œuvre de sagesse qui nous dépasse. Et on ajoute d'ailleurs, en disant cette sagesse divine, c'est le Christ lui-même. On dit que le Christ est sagesse de Dieu. Et donc la sagesse divine est présente maintenant parmi les hommes en s'incarnant. Donc c'est tout à la fois une œuvre de miséricorde, de justice, de puissance et de sagesse.
De sagesse, de bonté.
De bonté, on peut y mettre tous les attributs divins, tout ce que nous disons à propos de Dieu.
Alors évidemment, on ne peut pas, frère Philippe-Marie, séparer l'incarnation de la passion et de la résurrection du Christ.
Oui. Alors, dans la liturgie, on va entendre la nuit de Noël, Odier, aujourd'hui, tout est commencé, mais même presque tout est achevé. Ça y est, c'est fait. nous sommes arrivés au terme. Ce que Dieu voulait, il l'accomplit dans le Christ, et puis c'est acquis une fois pour toutes. Alors, ce que ça veut aussi dire, dans la liturgie, hein, odier, ça veut dire ce qui s'est passé il y a 2000 ans, se fait à chaque fois que nous célébrons ce mystère. Non, dans la liturgie, par les sacrements.
Oui, c'est ce qu'on dit aussi de l'Eucharistie.
Oui, tout à fait. Hein, donc, c'est, nous faisons mémoire de ce que le Christ a fait il y a 2000 ans et nous actualisons ce qui s'est produit il y a 2000 ans. Actualisation. Mais cette actualisation, elle ne concerne pas uniquement l'incarnation, parce que l'incarnation, c'est un commencement, c'est le premier acte de ce qu'on appelle la rédemption. Hein, l'incarnation, elle est en vue de la croix. Et au-delà de la croix, de la résurrection. Donc on peut dire qu'il y a une triade inséparable, trois actes essentiels, si vous voulez, dans la vie du Christ, qui est l'incarnation, la rédemption par la croix, donc la passion qui culmine sur la croix, et puis enfin, et surtout, la résurrection. Donc il faut penser le mystère de l'incarnation par rapport à justement à ces deux autres mystères, parce que sinon on comprend pas très bien en quoi la liturgie tout est contenu dans l'incarnation. Oui, parce que tout est contenu dans son point de départ, mais maintenant il faut que ça se déploie dans le temps, et ce qui était au départ se déploie dans le temps, c'est-à-dire la passion, puis au-delà du temps, la résurrection. À laquelle, résurrection, passion, résurrection, nous-mêmes, nous sommes appelés à participer. Hein. Nous mourrons aussi, tous, comme le Christ, et nous ressusciterons dans la gloire du monde à venir.
Et pourquoi l'incarnation n'aurait pas suffi ?
Alors, tout est contenu dans l'incarnation. Oui. Donc, en un sens, on pourrait dire que tout est suffi. Tout ce qui est après le moment de l'incarnation, tout ce qui est après l'annonciation, si vous voulez, hein, puisque c'est à ce moment-là que Dieu s'incarne, n'est que le désenveloppement, le déploiement de ce qui est contenu en germe dans l'incarnation. Alors seulement, il faut l'histoire, il faut le temps. Hein. Le temps n'est pas un paramètre secondaire. Donc l'histoire avec le temps. Tout se fait dans le temps, nous-mêmes nous construisons dans le temps. Ce qui était au commencement un petit homme devient ensuite un adulte. Ce que Dieu fait, il le fait dans le temps. Il faut aussi que ce qui est contenu comme en germe dans l'incarnation se déploie ensuite dans le temps du Christ et enfin dans le temps de l'Église dans lequel nous sommes.
Avant de terminer cette émission, est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose pour conclure et aider nos auditeurs à vivre cette fête de Noël ?
Alors, ce que je pourrais ajouter pour terminer, c'est que tout cela, ce que nous venons de dire en résumant en quelque sorte le tout, suppose la foi et une foi vive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de foi sans amour. Donc, nous ne pouvons pas comprendre ce mystère, mystère de l'incarnation, si nous ne nous plongeons pas chacun de nous dans les profondeurs de la foi que nous avons reçue à notre baptême et dans les profondeurs de l'amour de Dieu. Parce que tout ça, c'est l'œuvre de l'amour de Dieu. Je dirais que la cause de tout, ce que nous allons célébrer à Noël et puis ensuite de la Passion, de la résurrection au moment de Pâques, c'est a pour cause la philanthropie divine, comme disent les pères, c'est-à-dire il aime l'homme, hein. Il est créateur et il aime la créature qu'il a créée. Donc tout est l'œuvre de l'amour de Dieu, mais cet amour, il n'est pas simplement celui de Dieu, c'est celui qu'il a déposé en nous, hein, avec la foi. Donc je dirais à nos auditeurs que de le soir de Noël, ce que Dieu attend de nous, c'est une foi vive. Hein. La foi vive, c'est la foi dans l'amour. Donc, demandons à Dieu, je dirais, de nous donner plus de foi encore et de nous le faire aimer plus que toute chose.
Merci beaucoup, frère Philippe-Marie Margelidon, et je vous souhaite un joyeux Noël.
Joyeux Noël à tous.